Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça.
Écoutez, c'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah, bah.
Bonjour à tous, c'est le retour de Delta Sport. On est vraiment très très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le 24 mars et je suis accompagné de la team Delta Sport à moitié, on va dire. Il y a Clément,
salut,
qui est là, qui va nous faire la Ligue 1 et la Ligue des Nations, parce qu'il y a eu plein de choses,
ouais. Beaucoup de choses. Ouais. On va essayer de pas trop parler de foot parce qu'après les filles vont pas être contentes, mais on va en parler quand même.
C'est ça. Je suis aussi avec Lola.
Salut.
Lola qui a passé un week-end pas terrible en biathlon.
Ouais.
Ouais, on en parlera juste après. Marine est là.
Salut.
Aussi, et bon.
Je parle du premier, pas du deuxième.
D'accord, ok, on parlera du premier. Et invité spécial aujourd'hui. Merde, j'ai oublié ton prénom alors. Théophile. On a CF Théophile. Excuse-moi, désolé. Ouais.
Bonjour.
Qui
va parler
de cyclisme aujourd'hui.
Ouais.
Allez, on commence tout de suite avec la Ligue 1.
Donc je vais vous présenter la Ligue 1 pardon, avec les matchs qui se sont déroulés le week-end dernier. Donc pour commencer, il y avait un Nice-Auxerre à Nice. Donc on s'attendait tous à ce que les Aiglons gagnent et finalement, match nul, un but partout. C'est vrai qu'Auxerre, ils sont bons, ils posent des problèmes à des grosses équipes.
Ah,
ils ont battu Marseille deux fois, ils ont fait un match nul contre Paris, Lens,
ouais.
Et tout. Et là, ils embêtent Nice qui, en cas de victoire, aurait pu recoller à l'OM en deuxième place. Ensuite, il y avait un match Nantes contre Lille à Nantes. Nantes qui devait se relever, tandis que Lille, eux, pouvaient se rapprocher de la Ligue des Champions. Et au final, Nantes qui l'a emporté là aussi 1-0, donc grosse surprise. Mmh. Avec notamment, par contre, un rouge quand même pour Nantes. Mais
ouais.
Ils l'ont emporté contre quand même Lille qui est la Ligue des Champions.
Lille, ils venaient de se faire éliminer contre Dortmund en Ligue des Champions, donc ouais, ça a fait un peu mal.
Mais bon, Nantes quand même, là même, on peut dire, ok, ils ont joué des matchs et tout, mais bon, c'est quand même Nantes en face. Ensuite, il y avait un match Angers-Monaco. Monaco qui devait gagner là aussi contre Angers à domicile. Angers à domicile, c'est très très fort. Mais finalement, Monaco qui a réussi à s'en sortir et ils l'ont emporté 2-0. Donc Monaco revient à la même hauteur que Nice et à la même hauteur que Marseille aussi pour la deuxième place, ce qui est synonyme de qualification en Ligue des Champions. Il y avait un bon petit match quand même le samedi soir entre Lens et Rennes. Victoire de Lens 1-0, ça leur fait du bien puisque Lens n'avait pas gagné depuis très longtemps. Enfin, si j'enlève la victoire face à l'OM, mais sinon c'était dans une série très négative les Lensois et ils gagnent contre Rennes, le Rennes d'Habib Bey qui là aussi eux c'était un peu l'inverse, ils faisaient que gagner, c'était sur une bonne dynamique et là ils perdent 1-0, c'est dommage. Donc voilà, belle victoire de Lens dans ce match. Ensuite il y avait Lyon-Le Havre, victoire des Lyonnais 4-2 contre Le Havre. Donc une bonne petite victoire même si quand même deux buts ils sont pris, c'était voilà, la défense, il y a eu beaucoup de buts dans ce match. Donc voilà. Ensuite, il y avait un Brest-Reims, donc match nul 0-0. Alors, j'ai vu le résumé du match. Franchement, il y a eu quelques occasions, mais bon, voilà, ça méritait quand même quelques buts. Mais bon, 0-0, c'est comme ça, avec un carton rouge du côté de Brest. Ensuite, il y a eu un match entre Montpellier et Saint-Etienne. Alors là, c'était le match de la peur, puisque Montpellier, 18e et dernier, affrontait Saint-Etienne, 17e et donc avant-dernier. Et au final, le match a été interrompu. Et oui, puisque les supporters de Montpellier, mécontents de la prestation de leur équipe, puisqu'ils perdaient à ce moment-là 2-0 contre Saint-Etienne, donc c'était vraiment pas bon. Ça sentait vraiment pas bien bon.
Ils criaient on va en Ligue 2.
Ouais, on va en Ligue 2. Bon, ça, c'est un peu les. On va dire le.
Depuis le début de la saison.
Non, mais ça, c'est tous les supporters où leur club, ils vont pas bien. Ils crient tous, ouais, on va en division en dessous. Et donc, ils ont jeté les fumigènes sur le terrain, ils ont brûlé des trucs dans les tribunes, des barricades, de je sais pas quoi. Donc, c'est passé quand même quelque chose à Montpellier. Et même Jean-Luc Gasset, après le match, a dit que là, la mission, c'était quand même très difficile pour se sauver en Ligue 1. C'est vrai que là, on verra le classement après, mais ils sont très, très loin de se maintenir. Montpellier, enfin, vraiment, faire une fin de saison de folie.
Bon,
ouais, de folie. Parce qu'en plus, là, dans deux matchs, ils vont affronter l'Olympique de Marseille, donc compliqué. Donc voilà, Montpellier, là, ça sent de moins en moins bien. Ensuite, il y avait un autre match, Strasbourg contre Toulouse. Strasbourg, il a emporté 2-1 dans un match où Strasbourg a quand même bien dominé et l'a gagné chez lui contre Toulouse. Très bonne équipe aussi. C'était un bon match entre 7e et 8e. Deux petites équipes qui sont au final en plus au haut du tableau, en haut du classement. Et donc, victoire de Strasbourg, 2-1.
C'est ça.
Donc, moi, franchement, ces deux équipes me plaisent dans ce championnat. C'est quand même. C'est deux bonnes équipes qui jouent, c'est un peu comme Auxerre, des petites équipes qu'on n'attendait pas là.
C'est des équipes assez jeunes aussi.
C'est ça qui joue, ouais, c'est ça, surtout Strasbourg, c'est ça.
Ah bah
c'est la plus jeune équipe, je crois, des 5 grands championnats, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Donc les petites équipes qui jouent le maintien et finalement qui se retrouvent ici au plus haut du tableau, enfin au plus haut du tableau, je parle quand même de 7e, 8e position. Et pour finir, il y avait le choc entre le PSG et l'OM. Donc là, on s'attendait tous à ce que le PSG mette une volée olympique de Marseille. Mais moi, je le disais avec toi, Yanis. Hein, je disais que Marseille, on allait se prendre une volée. Et finalement, alors il y a eu victoire de PSG 3-1. Mais, écoutez-moi bien.
Mais.
Je trouve, j'ai regardé le match.
Mais ils ont perdu quand même. Non, mais,
écoute, Marseille a super bien joué. Franchement, ça, le 3-1, ça reflète pas du tout le match.
Je sais pas du tout.
Yannis, tu as regardé le match, t'es chemise,
Oui, j'ai regardé le match, bien sûr, j'ai regardé le match.
Et le match, franchement, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match.
Il y a
pour une fois, il y a eu un bon arbitre, hein, Turpin, j'étais choqué, il a bien arbitré.
Il y a eu beaucoup plus d'occasions côté parisien que côté
Marseille. Oui, c'est sûr, même si des fois, Marseille, on vous a quand même mis en difficulté.
Bien sûr, mais
il
a une bonne défense.
Mais, voilà, donc bon, heureusement, malheureusement, c'est Lirola, il nous gâche tout, il y avait 2-1. On a pu revenir à 2-2, on était en train de vous titiller.
Voilà.
Et puis là, Lirola qui met un pointeur dans ses buts.
Superbe reprise de volée dans sa cage.
Ouais, je suis sûr, si ça aurait été dans le but de Donnarumma, il l'aurait mise à côté. Donc voilà, malheureusement, l'OM perd 3-1. Mais franchement, moi, je suis content en vrai. Enfin, je suis content, non, parce qu'on a perdu. Mais je suis quand même satisfait parce qu'on a quand même bien joué. Je m'attendais à prendre une volée 5-0. Il n'y avait pas Benacer, Højbjerg et tout. Et en vrai, franchement, ça va. On a quand même bien joué. Je suis content.
Non, mais
c'est une bonne augure pour la fin de saison pour Marseille.
Je suis d'accord.
Maintenant, il faut finir deuxième.
Je suis d'accord.
Voilà. Bon, par contre, là, on va voir le classement. Mais Paris compte 19 points d'avance sur Marseille. Donc Paris, premier, 68 points. Marseille, deuxième, 49 points. Donc c'est simple, là, ce week-end. Donc le week-end qui arrive.
Oui, c'est ça.
C'est si Marseille perd, que Paris gagne, et que, on va voir, et là, que, mais que Monaco est quatrième. Monaco est troisième et Nice est quatrième, donc à 2 points derrière Marseille. Si Monaco et Nice, donc ils vont s'affronter, s'ils font match nul, donc que Marseille perd et que Paris gagne, Paris est déjà champion.
Voilà.
Alors qu'il reste 8 journées.
Oui, voilà.
Voilà, c'est comme, je ne sais plus combien. Donc voilà, donc, Paris peut être sacré champion des suites quand même. Bon, ça va quand même être compliqué parce qu'il faut que Marseille perde à Reims.
Oui, mais bon.
Normalement, voilà. Et puis il faut qu'il y ait match nul entre Monaco et Reims. Voilà.
On sait jamais.
Donc du coup, comme j'ai dit, Marseille toujours deuxième avec 49 points. Monaco troisième avec 47, même pour Nice quatrième. Ensuite, Lyon a 2 points derrière Nice, qui est 5e avec 45 points. Lille, 6e, 44 points. Et comme je dis, Strasbourg qui est là, 43 points, qui est vraiment pas loin des places européennes. Strasbourg, ils sont vraiment pas loin de la Ligue Europa Conférence, ils sont qu'à 1 point.
Ça pourrait être une bonne surprise, comme Brest l'année dernière, ça peut être Strasbourg cette année.
Franchement, Strasbourg, ouais, c'est ça. Bon, après, Brest, c'était vraiment un truc de fou, Ligue des Champions et tout.
Bah,
là, déjà, se qualifier en Coupe d'Europe pour Strasbourg, ce serait quand même assez extraordinaire.
Ce serait génial. Lens,
8e, 39 points. Brest, 9e, 37 points, etc. Donc là, on retrouve Toulouse, OCR, Rennes, les bonnes petites équipes, même si Rennes, ils n'étaient pas bien en début de saison. Et du coup, le fin fond du classement, donc le barragiste, Le Havre, 16e. On se rappelle que la dernière fois qu'on s'était vu, ils étaient derniers. Maintenant, ils sont retournés barragistes. Donc, pour l'instant, ils joueraient contre le 3e de Ligue 2.
C'est ça.
Donc voilà, Reims qui est 15e, donc juste devant. Et pour l'instant, ceux qui sont relégués, c'est Montpellier, dernier avec 15 points. Donc, comme je l'ai dit, ça ne rend pas. Et Saint-Etienne est avant-dernier avec 20 points. Donc là, regardez, Montpellier, si je vous donne un truc, ils sont à 6 points d'être barragistes. Donc, ils ne sont même pas sûrs d'être. D'être resté en Ligue 1. Donc là, ils sont à 8 points du 15e. C'est-à-dire gagner. Là, c'est vraiment dur pour Montpellier.
Ouais, c'est sûr.
Saint-Etienne, c'est faisable. Franchement, ils sont pas loin. Ils sont qu'à 3 points. Mais Montpellier, maintenant, ça va être vraiment très compliqué.
C'est ça.
Donc voilà. Donc un petit point aussi, meilleur buteur. Bon, Dembélé, toujours premier, hein, largement. Avec Greenwood et David derrière.
Merci beaucoup, Clément. On passe à la Ligue des Nations.
C'est ça, Ligue des Nations ce week-end. Donc comme j'ai dit, Ligue des Nations cette semaine,
oui,
avec les matchs aller-retour. D'ailleurs, c'est la première fois que c'est aller-retour, il me semble, non?
Non, c'est toujours comme ça.
Ah oui, c'était pas un match sec que...
Non, c'est toujours comme ça.
Ok, je pensais, j'ai rien dit alors.
C'est pas grave.
Donc il y avait 4 matchs qu'on a vu la dernière fois. Donc il y avait Allemagne contre l'Italie, Portugal contre Danemark, Espagne contre Pays-Bas et France contre Croatie. Donc ça, c'était les quarts de finale. Donc pour commencer, il y avait Allemagne-Italie. Donc il y a eu 3-3 entre l'Allemagne et l'Italie. Au match retour, c'est ça. Donc l'Allemagne s'est qualifiée.
Ouais.
Donc franchement, une belle prestation de la part des Allemands. Ensuite, aussi, le Portugal a gagné 5-2 contre le Danemark.
Ouais, il faut savoir qu'ils ont quand même marqué 3 buts dans les prolongations.
C'est ça. C'est parce qu'il y avait eu. C'est ça. Au cumul des scores, ça fait 5-3.
C'est ça.
Parce que le Danemark
avait
gagné au match aller. Voilà. Du coup, le Portugal l'emporte et donc est aussi qualifié pour les demi-finales comme l'Allemagne.
C'est ça.
Ensuite, il y avait l'Espagne contre les Pays-Bas. Donc au match aller, il y avait eu 2-2. 2-2. Et là, dans ce match surtout, il y avait eu 3-3. Donc un match très serré entre l'Espagne et les Pays-Bas. Bon, l'Espagne, on connaît, c'est une très grosse équipe. Les Pays-Bas aussi. Voilà, c'est pour ça. Et tir au but, l'Espagne l'a gagné 5-4.
Ouais, c'était vraiment très très serré. Je crois que c'était au 7e ou 8e tir carrément.
Ouais, donc franchement, donc l'Espagne qui se qualifie aussi. Donc, bon, sans que les grosses nations. Allemagne, Portugal, Espagne. J'ai envie de dire, il manque plus qu'une nation, une grosse nation pour se qualifier, c'était la France. Voilà. Et à l'aller, c'était très mal passé puisque l'OM, j'allais dire. La France a perdu 2-0. Tu vois, j'ai l'habitude que Marseille perde du coup. Voilà, donc la France a perdu 2-0 à l'aller contre la Croatie, donc une grosse désillusion.
Et puis tout le monde disait. De toute façon, c'est mort. L'équipe de France va pas se qualifier, machin et tout. L'équipe de Croatie était largement meilleure au match aller, ça c'est sûr.
C'est ça. Bah, c'était sûr. Ils nous ont dévoré au match aller.
C'est vraiment sûr. Et tout le monde disait oui, mais non, là ça passera pas. Donc, ouais, voilà.
Et finalement, la France qui s'en sort, car ils ont gagné 2-0. Donc, direction les prolongations. Donc, franchement, 2-0. Merci Olise qui a fait un but, une passe D. Le nouveau joueur, entre guillemets, de l'équipe de France. Ça doit être sa 5e, 6e section, même
pas. Ouais, je crois, c'est ça.
Même pas, je crois. Donc, voilà, franchement, déjà, c'est déjà quelqu'un qui est très fort. Donc voilà, Dembélé qui a marqué encore, on l'arrête plus. Lui.
Non, moi je dirais carrément merci Maignan quand même.
Merci Maignan, j'allais venir. Et victoire du coup de la France au tir au but contre la Croatie, là aussi 5-4.
Oh,
merci Maignan. Théo Hernandez, il nous a fait peur quand même avec son tir raté là. Oh, mais tu sais que moi je l'ai vu dès sa course d'élan. Sa course d'élan, elle ressemblait à rien du tout. Ça faisait 3 pas près du ballon. Au côté, je me suis fait, c'était sûr, il tire là.
J'ai eu peur.
En haut. Et c'est, voilà, c'est
franchement, je t'avoue que vraiment j'ai eu peur parce que je me suis dit quand même, parce qu'il y avait quand même Livakovic, qui est un super bon gardien.
Après, t'as Maignan quand même en face.
Il y a Maignan, mais bon, lui il peut arrêter. Enfin, quand t'as le Croate qui marque le penalty et que t'as Doué qui arrive en face, qui est vraiment pas du tout très expérimenté, il a marqué un penalty avec le PSG en Ligue des Champions. Tu te dis, allez, on y croit. Et franchement, je te dis, j'avais vraiment peur.
Ouais. C'est ça. En tout cas, la France qui se qualifie, du coup, pour les demi-finales, ça donnera donc ces deux très belles affiches. Franchement, là, on a les meilleures nations d'Europe. Donc, l'Allemagne contre le Portugal et l'Espagne contre la France.
Oh là là.
Un petit pronostic, c'est parti, tour de table. Yanis, Allemagne, Portugal, tu vois qui gagne ?
L'Allemagne.
Allemagne, Lola.
En plus, Portugal, je pense.
Portugal, Marine.
Moi aussi, je vois Portugal.
Qui est Théophile ?
Ouais, je pense plus Allemagne.
Je pense que ça va être l'Allemagne parce que notamment, ils ont une grosse équipe assez jeune, tu vois.
Pour moi, c'est l'Allemagne.
Assez expérimentée et franchement.
C'est pas faux.
L'Allemagne est très forte.
Alors, ça va être serré, ça c'est sûr. Ouais. De toute façon, c'est les
demi-finales. Mais moi, pour le jeu, j'aimerais bien.
Ouais, voilà.
Ça changera.
Et Espagne-France, Yanis, bon, essaye d'être objectif. Hein, voilà.
En vrai, c'est deux très grosses équipes, mais je mettrai quand même une pièce sur l'équipe de France.
La France, okay. Lola. Espagne-France.
J'en sais rien. Je veux dire France, parce que France, c'est la France.
Ouais, voilà.
Alors, si je suis objectif, je dirais que ça sera l'Espagne qui va gagner. Il n'y a pas photo. Bah, niveau équipe, niveau état actuel des équipes.
Parce que là, on a fait un super gros match. Enfin, on a fait un beau
match. Oui, mais tu parles de ce match, mais celui d'avant, il était catastrophique.
Après, ce n'était pas les mêmes joueurs, ce n'était pas les mêmes.
On parle de la Croatie. Ils n'ont pas une équipe.
Bien sûr.
Ils ne sont pas forts, mais.
Bien sûr.
Ils ont quand même aussi des vieux joueurs, je parle notamment de Modric.
Qui est des joueurs que je choisis.
Alors
pas,
que là,
moi.
C'est vraiment.
Oui, bien sûr, c'est la jeunesse avant tout.
Non, là, c'est vraiment l'Espagne, ils ont une équipe.
Mais le match aller sera. Je crois que c'est. Il n'y a pas de match aller, ça sera à Stuttgart.
Mon cœur me dit que, quand même, la France.
Théophile ?
Pareil comme Marine, si on reste objectif, normalement, c'est l'Espagne qui devrait s'imposer. Hein,
ouais.
Championne d'Europe.
Après, moi, je vois quand même jusqu'à aller aux prolongations, tir au but et on gagne.
Mais les tirs à but, pour moi, c'est on n'est jamais chanceux. Donc, mieux pas des tirs au but.
Je vous explique, c'est l'Espagne qui va gagner. On va se dire, punaise, l'Espagne, c'est vraiment notre bête noire. Ils sont vraiment trop forts. C'est vrai qu'ils sont très forts.
Et
vous allez voir, on va les battre à la Coupe du Monde. On va prendre notre revanche à la Coupe du Monde et on va être champion du monde.
Tant mieux.
C'est ma théorie. Donc là, je vois l'Espagne gagner.
Moi, j'espère qu'ils vont se réveiller, surtout un peu la France. Hein, parce que là...
C'est vrai que la Croatie, là, si c'est contre l'Espagne, ça va pas pardonner.
C'est ça.
Donc voilà, donc deux petites affiches. Ce sera en juin, quelque chose comme ça. Donc quand les saisons seront finies, la Ligue des Champions sera passée, le PSG sera fait.
Le 5 juin. Et du coup. Je reviens sur un truc parce que du coup il y a les qualifications à la Coupe du Monde 2026 et il fallait attendre ces matchs-là pour avoir les groupes de qualification. Bon, c'était des groupes assez simples, mais pour l'équipe de France, ce sera l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et l'Islande.
Ouais, donc, normalement, ça devrait passer.
Attention à l'Ukraine quand même.
C'est ce que j'allais dire. Attention à l'Ukraine. Bon, l'Azerbaïdjan, l'Islande, normalement.
Ouais, mais attention à l'Ukraine parce que l'Ukraine peut jouer les trous en fait.
Attention à tout le monde. Hein,
d'ailleurs, t'as vu, il y a déjà une nationalité, enfin un pays qui est déjà. En Coupe du Monde, c'est le Japon.
Le Japon.
C'est ce qui est déjà pour la Coupe du Monde.
Et ce soir, ça pourrait être carrément la Nouvelle-Calédonie qui pourrait se qualifier.
Mais j'ai vu, c'est la Nouvelle-Calédonie. Ils sont jamais été en Coupe du Monde.
Jamais.
Ouais, jamais.
De toute façon, c'est deux équipes. Enfin, là, les deux équipes qui s'affrontent, c'est des équipes qui n'ont jamais été en Coupe du Monde. Ouais. C'est la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie.
Ouais, mais Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays qui est plus foot, meilleur que la Nouvelle-Calédonie. Ouais. La Nouvelle-Calédonie, j'ai jamais entendu parler en foot. Enfin.
Hein, moi non plus.
En tout cas, elle va être nouvelle.
Oui, c'est vrai. Le pays. Ben, c'est ça.
Alors, merci. Vous avez remarqué la petite blague, voilà.
Merci voilà. Beaucoup, Clément. On passe tout à la Ligue des Champions. Et comment ne pas parler de Ligue des Champions quand il s'est passé aussi pas mal de trucs aussi en Ligue des Champions. Ouais.
Beaucoup de choses.
Mais je vais être très très court, vous inquiétez pas, je vais juste vous annoncer les quarts de finale de cette Ligue des Champions 2025. On commence avec le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié avec mention a eu de la chance.
Oui. Merci Donnarumma.
Face à Liverpool, donc Paris, première équipe qualifiée, et ce sera face à Aston Villa.
C'est ça. Donc, normalement ça devrait passer, mais...
On sait jamais.
Attention, avec Paris en Ligue des Champions.
On sait jamais. Sinon, le Real s'est qualifié, avec là aussi au tir au but. Ouais. Et ce sera face à Arsenal. Arsenal-Real Madrid.
Franchement, Arsenal, très grosse prestation. Ils ont, on peut dire, atomisé leur adversaire. Oui. C'était contre qui déjà, le PSV.
Le PSV Eindhoven.
C'est ça, PSV, ils les ont atomisés. C'était un aller, je ne sais plus combien il y a eu au retour. Mais...
Il y a eu match nul.
Match nul, voilà, au retour. Bon, parce qu'ils savaient qu'ils avaient gagné.
C'était la petite équipe en face.
Voilà, donc, ouais, c'est pour ça.
Barça contre Benfica, c'est le Barça qui s'est qualifié et ils joueront contre Dortmund. Et là, Marine
bon
a
match.
Fait.
Bah, c'est un bon match.
Malheureusement,
Dortmund
qui a battu Lille, malheureusement, alors que Lille avait ouvert le score chez eux.
Ah oui, donc c'est à la 5ème minute de jeu.
Ouais, dommage, franchement, Lille, c'est pas loin de l'exploit.
C'est ça.
Je crois en mon
un équipe. Duel 100% allemand. C'était donc, le Bayern Munich qui affrontait le Bayern Leverkusen et c'est le Bayern Munich qui s'en est sorti vainqueur. Et qui affronteront l'Inter Milan qui s'est disposé de Feyenoord.
Franchement, il n'y a que les grosses équipes là. Hein. Franchement, Paris. Alors, ouais, peut-être Aston Villa qui est allé. On les attendait pas là, mais sinon Paris, Aston Villa.
Ouais.
Après l'autre match, du coup, c'est à Bayern-Inter. Ensuite, c'est Real contre Real, tu m'as dit.
Real-Arsenal.
Real-Arsenal. Et puis l'autre quart de finale, c'est.
PSG,
j'ai dit Real.
Barça.
Barça, ça.
Barça contre Dortmund.
Dortmund, c'est ça, franchement. Donc, bon, franchement.
Vous voyez qui en demi-finale? Alors, on commence avec. Arsenal-Real Madrid. Qui gagne?
Franchement, bon, c'est Real en vrai. Parce qu'ils ont toujours, même si on les sent pas forts en Ligue des Champions, ils peuvent être nuls, ils gagneront toujours. Moi, je les vois quand même passer en.
Moi, je les vois pas passer.
Ah, moi, ouais, je vois Arsenal.
Ouais, moi aussi.
Je préférerais Arsenal.
Moi, je vois Arsenal quand même, je pense.
Oui.
Moi, je vois.
Arsenal, quand même, ils ont. En première ligue. Ils jouent quand même assez bien, donc.
Ouais.
Arsenal, c'est fort, ouais.
C'est vrai. Donc, pour moi, je pense qu'ils peuvent créer la surprise. C'est un grand mot parce que c'est quand même une grosse équipe, donc.
Mais Real, ils ont toujours la chance avec les champions. C'est leur compétition.
C'est vrai.
Donc là, pour moi, je veux le Real.
Donc PSG, Aston Villa.
Moi, je dirais PSG, mais faire attention quand même parce que Aston Villa, on ne sait jamais. Ouais. Tout le monde les voyait pareil l'année dernière. Je ne sais pas si vous en souvenez. Hein. Demi-finale contre Dortmund, tout le monde les voyait en finale déjà contre le Real. Je dis bon, c'est Dortmund, c'est bon. Résultat éliminé, bon, ça les a pas aidés avec les montants, mais voilà, donc faire attention quand même pour Paris. Mais bon, normalement, s'ils font pas n'importe quoi, ils gagnent.
D'accord. Barça, Dortmund.
Bon, Barça pour moi.
Ouais, moi aussi.
Barcelone aussi. Ouais.
Ouais.
Barcelone. Et enfin, là, je pense que c'est quand même le plus serré. Inter Milan contre Bayern Munich.
Bayern.
Inter. Ah,
Bayern. Moi, Bayern.
Moi, je vois le Bayern te passer, mais genre avec.
Ah oui. Mais de toute façon, je pense que tous ces matchs, ils vont pas non plus.
Bayern-Barça en demi-finale, ça doit être ça.
Inter très très fort.
Non, mais d'un côté, j'ai pas tellement envie de revoir un Real Madrid-Barcelone. J'ai envie de voir une autre.
Oui, bah deux oui, grosses voilà,
autres équipes. Parce que eux, ils s'affrontent déjà dans la Liga, on les voit déjà.
Deux autres grosses équipes, tu veux pas que le Barça.
Ah non, c'est Barça et une autre équipe, il n'y a pas d'autre.
Et voilà. Si Paris bat Aston Villa, il jouerait contre qui?
Bah, du coup, contre soit le vainqueur de Arsenal, Real Madrid.
Ok. Donc, ça ferait, pour moi, ça ferait un petit PSG Real et un petit Inter.
Vous pensez que c'est.
Inter-Barça.
Ça serait quoi la finale, vous?
Barça-Real, moi.
Ah oui.
Moi, je le sens.
Moi, je vois bien PSG Bayern Munich.
Ah oui.
Okay.
Ah oui, tu vois que le PSG élimine le Real et que le Bayern élimine le Barça.
Moi, le PSG, je pense pas. Hein. Franchement,
moi, je le vois bien.
Le PSG, là, ils ont eu quand même vachement de chance dans le.
Moi, je te dis. Alors,
après, ils ont quand même super bien joué contre Liverpool. Hein. Même après, ils sont trop forts. Le PSG.
En fait, le PSG, vraiment, j'ai l'impression que c'est. Genre, ça dépend vraiment des matchs. T'as des matchs, c'est super.
C'est
vrai, t'as raison.
Mais ils jouent comme ils veulent, le PSG. Ils peuvent être nuls.
C'est aléatoire.
C'est vraiment ça.
Ce club est aléatoire.
Sinon, en Ligue Europa, on a quand même un club français encore en quart de finale. Et ce sera l'Olympique Lyonnais qui affrontera, bon, pour moi je pense que c'est un peu les plus durs, ça sera contre Manchester United.
Ouais. Attention United, parce que des fois United ils sont capables de faire contre des contre-performances. En première ligue, je sais plus déjà, ils ont perdu contre une petite équipe. C'est pas Ipswich,
ou Ipswich ouais,
je crois. Donc attention, normalement c'est compliqué, mais en vrai United est capable de faire des contre-performances, des contre-performances. Et si Lyon joue bien, pour moi il y a vraiment, c'est vraiment possible qu'ils passent et qu'ils aillent en demi. Et qu'ils aillent gagner même cette Ligue Europa, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grosses équipes. Il y a quand même pas mal, mais t'as Francfort et tout. Mais franchement, Lyon, c'est quand même à leur portée, je trouve, le United. C'est pas non plus le grand United.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Bah, c'est mon avis.
Merci pour ton expertise.
Et bien, je vous en prie.
Allez, on passe tout de suite au biathlon.
Alors, quand même longtemps qu'on n'avait pas parlé de biathlon.
Ça fait longtemps aussi que t'es pas venu.
Ça c'est faux, j'avais des révisions. Donc du coup, bah, aujourd'hui on va faire le débrief de la toute dernière étape de cette Coupe du Monde qui se déroulait à Oslo et à Holmenkollen en Norvège. Du coup, elle a commencé le 21 mars et elle s'est terminée hier, donc le 23 mars. Alors on le rappelle, la Coupe du Monde elle avait débuté le 30 novembre et elle a duré près de 3 mois, donc plusieurs mois d'efforts intenses. Du coup là c'est vraiment l'aboutissement, donc on va voir les résultats. Donc déjà cette étape elle s'est ouverte avec l'épreuve du sprint en commençant avec les hommes. Donc on a un beau podium bien norvégien avec Johannes Bø en première place, suivi de Sturla Legrade et d'un second Johannes dont je ne prononcerai pas le nom parce que je n'y arrive pas, mais en tout cas il est norvégien aussi.
Il est norvégien, voilà.
Et ensuite du côté des femmes, on a Franziska Preuss qu'on mentionne souvent sur les podiums en première place. Donc cette victoire elle lui a permis de remporter le petit globe de cristal du sprint. Elle était suivie par la Française Loujean Monod. Qui arrivait sur la ligne d'arrivée seulement 0,2 seconde plus tard.
C'était vraiment très serré.
Mais de toute façon, entre ces deux-là, la dernière étape, c'était souvent serré.
Bien sûr.
Enfin, c'est souvent entre elles que ça se joue, de toute façon.
Deux dixièmes, c'est rien, tu dirais.
Mais oui.
La F1, mais
c'est comme en F1, ouais, voilà, c'est ça.
Mais la F1, ça va, c'est un petit truc. En plus, biathlon, genre juste à tout moment, tu peux accélérer un peu plus. Ouais. Ça joue vraiment.
C'était super frustrant, vraiment.
En biathlon, c'est.
Et du coup, en troisième place, c'était une Finlandaise suivie. Minkinen,
que d'accord.
Voilà, j'avais jamais
des
entendu.
Beau prénom du Nord.
Ouais,
ça.
Non, mais...
Voilà. Donc ensuite, l'étape suivante, c'était les poursuites. Du coup, du côté des hommes, on retrouve les deux mêmes Norvégiens sur les deux premières places, mais ils ont inversé leur position pour un peu d'originalité. Du coup, c'est Sturla Legrade qui a fini premier et Tarjei Bø en deuxième. Et donc le troisième, c'était un Français, c'était Quentin Fillon-Maillet. Donc ça fait plaisir quand même un petit peu de Français sur les podiums. Et du coup, en dominant, Johannes Bø sur cette épreuve, sur la Legrade, a assuré son gros globe dès cette étape-là.
Ah oui.
Donc du coup, c'est lui qui a remporté la Coupe du Monde chez les hommes. Et il a aussi remporté le petit globe de cristal pour les poursuites. Et du côté des femmes, on a une victoire de Loujean Monod, donc une Française, suivie par la Suédoise Elvira Hudberg et une Suisse, Lena Akigross.
Ah, une Suisse, c'est rare ça, donc.
C'est souvent Suède, Allemagne et France chez les femmes.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup aussi, il faut savoir que le classement de cette épreuve, il est plutôt impressionnant pour les Françaises, enfin sur toute la Coupe du Monde, parce que Loujean Monod, elle est première des poursuites. Derrière elle, c'est Julia Simon. Après, bah, Franziska Preuss quand même. Et ensuite, on a encore deux Françaises, donc Jeanne Richard et Océane Michelon. Donc elles ont vraiment assuré sur les poursuites cette année. Et du coup, ça nous fait quatre Françaises dans le top 5 du classement des poursuites de la saison.
Ah ouais, quand même. C'est
voilà. Après, enfin, la dernière épreuve de cette étape, c'était les Mass Starts. Du coup, du côté des hommes, elle a été remportée par le Suédois Sébastien Samuelsson, suivi par le Français Éric Perrault et un Norvégien, André Stromsheim. Bien qu'il ne soit pas présent sur le podium, c'est quand même Sturla Legrade, encore une fois, qui a remporté le petit globe de cristal sur cette épreuve.
Oui.
Encore lui. Je crois qu'il les a tous remportés, de toute façon. Mais c'est vrai que Johannes Bø, cette année, il était un peu absent par rapport à d'habitude.
Bah, c'est là, c'était la fin en même temps.
Bah, oui, bah, justement. Ouais. Enfin, moi, j'aurais pensé qu'il se serait donné à fond pour cette Coupe du Monde. Mais...
C'est ça.
Mais voilà. Et du coup, il y a quand même... Enfin, les deux prochains au classement des Mastart, c'était deux Français. C'était Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet. Donc, c'est quand même pas si mal du côté des hommes pour la France. Et chez les femmes, c'est un véritable coup de théâtre sur cette épreuve, malheureusement. Enfin, positif, bien négatif. Et du coup, il y a Lou-Jean Monod qui avait repris la tête du classement de la Coupe du Monde la veille, qui partait première, enfin, qui arrivait première sur l'épreuve et qui a eu un accrochage avec Francis Capros et qui est tombé à la toute fin de l'épreuve.
Elle a fermé la porte.
Oui.
C'est passé. C'est autorisé.
Bah, c'est vraiment bien dommage, surtout que du coup, de finir première, au final, elle a fini troisième de l'épreuve parce qu'elle s'est aussi fait dépasser par Elvira Heuberg, la suédoise.
Ça aurait fini quand même devant la suédoise, ça serait.
Bah oui, bah oui, parce que ça se joue entre elle c'est et Prose, donc voilà.
Aïe, aïe, aïe. C'est dur.
Donc, bah, c'est bien dommage.
Ouais. Bah, oui,
c'est vrai qu'elle l'a un peu serrée, mais en même temps...
Elle l'a
bien serrée, et en fait, comme elle n'avait plus de place, du coup, elle a mis son bâton dans sa... Ouais. Dans son ski, du coup, bah, elle est tombée.
Parce que c'est pas elle qui l'a fait tomber, c'est vraiment qu'elle s'est accrochée dedans. Mais après, Lou-Jean Monod, elle a dit qu'elle aurait fait pareil. C'est juste c'est con, quoi. Parce que
c'est le problème.
Dernier virage, elle tombe. Donc, voilà. C'est donc, comme ça. Bah, du coup, le petit globe de cristal de la Mastart, il est remporté par Francis Capreus. Et donc, ensuite, c'est... Bah, du coup, comme je l'ai dit, Elvira Heuberg et Lou-Jean Monod à la fin de l'épreuve. Et du coup, pour le classement final de toute la Coupe du Monde, du côté des femmes, on retrouve Francis Capreus, vainqueur du groupe Globe de Cristal, suivi par Lou-Jean Monod et Julia Simon. Et on retrouve aussi Océane Michelon et Jeanne Richard en 5e et 6e position, et Justine Brézaz-Boucher à la 8e place. Donc, c'est quand même un très beau classement pour les Françaises. Et chez les hommes, c'est du coup Sturla Le Goy qui remporte le gros Globe, suivi par Johannes Bö et Éric Perrault. Ensuite, Quentin Fillon-Maillet, il se retrouve en 5e position et Emilien Jacquelin à la 7e place. Donc, c'est pas non plus si pourri que ça pour les Français, c'est pas mal du tout.
Bah, non, c'est super. Bah, on a dominé la Coupe des Nations. Là. Enfin, j'ai vu, il y avait un truc. Je sais plus, c'était quoi, les Championnats du Monde ?
Oui.
Voilà, on les a dominés. Donc,
ouais.
C'est une bonne saison.
Bah, du côté des hommes, quand même, c'est vrai qu'ils ont fait peut-être moins de bons classements que les femmes, mais du côté des relais. Ils ont gagné tous les relais de la saison, ou c'est presque. Ça. Ou à part peut-être un, mais je crois qu'ils les ont tous gagnés.
Mais bon, Lou-Jean Monod, c'est dommage. Quoi.
Ça fout
un peu en l'air la saison, et puis voilà. Puis on peut dire au revoir du coup à Johannes Bö.
C'était
la fin. Bah oui, c'est la fin des deux même.
Même Tarjei Bø, il est plus jeune. Donc,
Je crois que c'était
les deux. Non, il est plus vieux. Le plus jeune, il part pas.
Ouais, non, Tarjei Bø, il est plus vieux que Johannes
Bø. Tarjei Bø, il est plus vieux, je crois.
Je sais que le plus jeune, il part pas. Parce que je sais jamais lequel des deux.
Je crois que Tarjei Bø, il est plus vieux.
Bah pour moi, j'avais vu ça aussi, mais attends,
je pense Tarjei Bø, il est plus vieux, et c'est Johannes Bø, du coup, même si c'est le plus jeune
qui
part.
Moi, j'avais entendu que, par exemple, il y en a un des deux qui partait et que l'autre allait prendre du coup la relève.
Ouais, peut-être, oui, ça se peut.
Ouais, mais je crois que le plus vieux, c'est Tarjei
Bø. Ouais, je crois que c'est Tarjei Bø, je crois, le plus vieux.
Attendez, je regarde.
Après, ça se trouve, au final, Yannis a raison, il part tous les deux.
Je crois que j'avais entendu que
Tarjei Bø est plus vieux. Il a 36 ans et Johannes Bø, il en a 31.
Ouais, voilà, 5 ans.
Mais il en a quand même 31, hein, ouais. C'est pas...
C'est rien, c'est pas grand-chose.
Bah, au biathlon, c'est au sport...
Tu sais...
Ouais,
mais quand tu sais que ton grand frère en a 36...
Oui, c'est sûr, mais...
Tu sais, parce que moi, j'ai quand même...
Peut-être mentalement, il suit pas.
J'ai quand même les adieux des frères Johannes et Tarjei Bø qui... Devant leur public à Oslo.
Ouais, Tarjei Bø aussi, il arrête. Attends.
Ils arrivent tous.
Ça va faire un grand vide.
Ah ouais.
Tu vas voir que les Français, là. Wouhou.
Ah ça... oui, bah il y a les deux
Mais t'as l'Aigrid derrière qui a gagné le truc. Donc,
T'en as plusieurs qui sont bons, hein, t'inquiète pas. Hein. Voilà. Eux, ils ont des générations et des générations derrière. Hein, qui...
Bah, les Norvégiens.
C'est ça.
Bah okay. Voilà, c'est fini pour la Coupe du Monde, du coup.
Et bah voilà, ce sera. Peut-être. Enfin, il y a les Jeux Olympiques bientôt, là. Donc...
D'hiver.
Ouais. C'est bientôt.
C'est pas cette année,
c'est en 2026.
Mais je sais que c'est l'année prochaine.
Oui.
C'est l'année prochaine.
Ouais, tu m'as fait douter.
Année, il y a rien comme
non, cette année, il y a rien. Ben ok, merci beaucoup Lola, on passe tout à la F1. Le retour, ça y est.
Enfin.
Enfin.
Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais parler que du premier Grand Prix et non pas de celui qui s'est passé hier, parce que sinon, ça allait faire trop d'informations en même temps. Donc le premier de la saison, c'était le Grand Prix d'Australie, donc Grand Prix emblématique quand même.
Ah bah oui.
Et donc ça nous a un peu donné le ton, on va pas se mentir, de toute la saison qui va suivre, même s'il y aura quand même des modifications, on l'espère ou pas, selon les avis de certains. Donc cette première course, elle a été remportée par le célèbre pilote McLaren Lando Norris, qui a eu quand même du mal à certains moments parce qu'il y a eu un temps plus que défavorable, rythmé par la pluie donc incessante. Étonnant quand même pour l'Australie, mais après...
C'est ça.
Ils rentrent dans leur saison...
Ils sortent de l'été, hein, c'est bientôt...
Ouais, ils rentrent dans l'automne.
C'est ça.
Nous, on espère qu'on va en sortir.
Moi, c'est sûr,
l'hiver.
C'est dernier.
Donc d'ailleurs, ce mauvais temps, il a causé un nombre quand même important d'incidents. Et donc de nombreuses interventions de la safety car. Et qui n'a pas épargné les nouveaux rookies, hein, surtout. Donc,
Alors ça c'est sûr.
Donc, parmi eux, il y avait notre nouveau pilote français, Isaac Hadjar, qui pilote chez...
Racing Bull.
Attention. Ouais. C'est ça, bien vu.
Racing Bull, anciennement AlphaTauri.
Il a été rapide. Hein.
Et il a dû abandonner donc, après son incident lors du tour d'échauffement. Oh. Ce qui a bien évidemment retardé la course. D'ailleurs, il est sorti totalement en pleurs de sa voiture, totalement déçu de lui. Normal. Et c'est le père de son idole, Lewis Hamilton, donc Anthony Hamilton, qui l'a réconforté.
C'était trop mignon.
Là, il a pris une photo avec Lewis Hamilton.
Mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, le président de Helmut Marko de Red Bull, il a dit que c'était un peu... Je ne sais plus exactement les mots, mais que c'était un peu exagéré de... d'être dans cette... de montrer autant ses émotions, on va dire ça comme ça.
Mais lui, il est cash, à chaque fois, Helmut Marko, il a un truc à dire, il le dit.
C'est ça.
Ouais, mais après, ils se sont parlé, et à ce qu'il paraît, ils ont réglé le...
Oui, voilà.
Le problème. Mmh. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'on a eu également les abandons de deux autres. Qui ? Doan et Bortoleto.
C'est nouveau.
Donc, Doan, nouveau chez Alpine, et Bortoleto, nouveau chez Steak. Donc, on parlera un peu des nouveaux rookies à la fin, parce qu'il y a des choses à dire. à part ça, la course elle a été quand même empreinte de changements et de batailles entre Max Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri. Mais Oscar Piastri, il a eu un tête-à-queue vers la fin de la course, je ne sais plus exactement le tour précis. Ce qui fait qu'il a terminé dans les derniers, alors que les McLaren étaient vraiment au-dessus pendant toute la course. Et je passe un petit message aussi à Ferrari qui ont également passé un très mauvais week-end parce qu'ils ont rapporté que 5 points à leur écurie. Notamment, Charles a été victime de problèmes avec ses pneus durs, perdant sa place à cause d'un tête-à-queue sous safety car.
Ah oui.
Et Lewis Hamilton, il n'avait pas réellement de rythme lors de la course. Donc beaucoup ont été déçus de cette première course d'ailleurs de lui. Après... moi, je pense qu'il faut voir avec le temps.
Après, la stratégie aussi, ils ont parlé sur un truc de rester en pneus slick alors qu'il pleuvait des trompes et des trompes d'eau.
Ouais. Et donc, c'est Lando Norris, comme je vous l'ai dit, qui a gagné, suivi de Max Verstappen et de George Russell. Et il y a eu, au total, j'ai le nombre d'abandons, il y en a eu 6.
C'est quand même énorme, 6. Hein.
Donc, et après, il n'y a pas eu que des rookies. Il y a aussi eu Fernando Alonso, Carlos Sainz.
Qui est loin d'être un rookie.
Donc, c'est énorme. Malgré tout, je veux quand même souligner la performance d'un en particulier, donc Andrea Kimi Antonini, qui a impressionné en terminant 5e pour son tout premier Grand Prix.
Non, franchement, c'est dingue.
Et donc, c'est fort. Et on va revenir un peu sur les rookies de cette année, parce que je sais qu'il y en a qui regardent un peu. Et il y en a 6 cette année.
Alors, c'est beaucoup en vrai, 6.
C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Je crois que c'est la première saison que je regarde où il y a autant de nouveaux rookies.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense qu'il faut du changement.
Ouais, voilà, ça, faut du changement.
Y en a qui n'étaient plus à la performance. Après, moi, je trouve qu'il y a eu des choix. Je vais en parler d'un particulièrement. Je ne vais pas m'acharner sur lui parce que.
Je sais de qui tu vas parler.
Je sais exactement. En fait, Liam Lawson.
Non, là, j'étais sûr.
C'était sûr, mais moi, ce n'est pas que je le trouve mauvais. Pas du tout, au bout d'un moment, il faut bien qu'il fasse ses marques. Qu'il fasse ses marques. Mais c'est juste que dans l'écurie, la petite écurie de Racing Bull, de Red Bull, Et bah, il y a un pilote qui s'appelle Yuki Tsunoda et qui a fait une excellente saison l'année dernière là pour la voiture qu'il avait.
Ouais.
Et en fait, on lui donne jamais sa chance.
Le pauvre. Ouais,
et moi, je pense que Liam Lawson aurait mieux fait d'être à la place de Yuki Tsunoda. Et Yuki Tsunoda aurait mieux fait d'être à la place de Liam Lawson.
Je suis Red Bull, je suis d'accord. Ouais.
Parce que bah.
Il le mérite, hein.
Bah, il le mérite.
Surtout pour lui, il est, ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est chez.
Ah, mais ça fait plus, hein.
Voilà, ça fait longtemps.
Il en a vu un
depuis. Et puis là, il se voit Lawson qui arrive en cours de saison l'année dernière. Ah, ok, il était bon chez Racing Bull, mais bon, là, il le passe devant comme ça. Putain, il s'est dit.
Et ouais, ça fait. C'est limite, on a l'impression qu'ils ne lui donneront jamais sa chance parce que si Lawson, imaginons, il fait des résultats mieux, plus performant, bah du coup ils lui donneront jamais son siège parce que
et puis même, et puis même s'il fait des résultats encore mauvais, il y a moyen quand même que Alger lui passe encore devant parce qu'Alger il est déjà au niveau
ils ont Tsunoda. Red Bull, ils ont regardé pour Colapinto. Pour changer Lawson.
Colapinto.
Donc c'est non mais c'est-à-dire que ils n'envisagent aucunement de faire passer leur pilote qu'ils ont déjà. Ils veulent pas.
De toute façon, Lawson il mérite pas de... Il mérite pas sa place.
Attends, parce qu'en vrai, il y a deux grands prix.
Sur
F1, non, abuse. Non, l'année dernière, il était bon quand même chez la Racing Bull.
Il a fait des bonnes choses.
Correct, voilà.
Mais après, moi, je pense qu'on peut pas se fier. Il a fait que deux courses sur des circuits où il a jamais été.
C'est
donc, c'est dur de se faire une idée. Mais. Je trouve ça juste dommage qu'ils ont fait ça comme ça, Red Bull.
De toute façon, il essaye avec tout le monde et il voit que personne n'y arrive. Il n'y a aucun pilote, en vrai, à part Ricciardo qui a été bon, mais à côté de Verstappen qui a réussi. Verstappen, il prend tellement d'ampleur dans l'écurie, c'est énorme. Et puis la voiture est faite pour Verstappen, hein, donc les réglages, c'est pas eu tous les mêmes.
Ouais, ça c'est vrai. C'est toujours difficile pour un coéquipier de s'adapter à.
Au grand Verstappen.
Ouais. Mais moi, je pense que justement, s'ils avaient mis une personne qui a plus d'expérience, il aurait peut-être mieux su s'adapter à ça.
C'est sûr.
Voilà.
C'est sûr.
Après, Kimi Antonelli, il est directement passé dans une énorme écurie.
Il est incroyable.
Il a du talent. Hein.
Pour l'instant, il est bien.
Il a du talent. Mais Oliver Bierman aussi est très bon. Après, les autres, honnêtement, Bortoleto, jamais entendu parler avant la... Je crois qu'il n'a pas gagné la F2.
S'il a gagné la F2.
Et alors, Doan.
Doan. Jamais entendu parler.
Mais
alors
vraiment,
que Pourchaire, il aurait carrément meilleur. Franchement, Pourchaire.
Non, mais Colapinto, ça aurait été un. Après, c'est que.
Ouais, Colapinto.
Colapinto, ça aurait été mieux. Parce que Colapinto, il a prouvé la saison dernière. Bon, attendons, c'est que deux grands prix, voilà, comme on a dit.
Non, mais c'est juste que on les connaît. C'est ça. On les connaît pas. Mais après.
Mais Doan, déjà, il est performant. Il était un peu au même niveau que Gasly.
Oh, quand même pas.
Non.
Si je regardais les qualifs, il était à 1/10 de.
Non, mais oui, mais c'est bien d'être fort en qualif, mais si tu peux pas gérer en course.
Après, quand t'as pas l'expérience de Gasly, ça fait combien d'années qu'il est en F1 maintenant? Ça fait longtemps.
Oui, mais enfin, quand même, il y a un décalage énorme. C'est comme Verstappen et Lawson, tu le vois.
Oui, de toute façon,
attendons. Oui, attendons.
Attendons. Parce que là, pour l'instant, c'est bien de critiquer, mais bon.
Ils sont jeunes encore, ils peuvent faire leur expérience.
C'est ça. Ben, merci beaucoup, Marine. On va passer au cyclisme.
Alors, pour l'actu cyclisme, on a eu un gros week-end avec le premier monument de la saison.
Milan-San
Remo. Donc, une course qui s'est réglée entre les trois grands favoris, Filippo Ganna, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Donc, la course au niveau du déroulement, l'échappée a été contrôlée par l'équipe de Van Der Poel, Alpecin de Koenig. Après, au début, quand on a entamé les premières ascensions du parcours, comme par exemple dans la Cipressa, l'équipe de Pogacar, donc le champion du monde, a commencé à encadrer la course.
C'est un peu normal.
Avec un gros relais de Tim Wellens, suivi de Jonathan Narváez, pour enfin lancer la fusée Pogacar, qui a battu le record de la montée en moins de 9 minutes.
Ah oui, Pogacar, c'est un petit nouveau, lui, je le connaissais pas.
Voilà. Ils avaient dit qu'ils voulaient faire la Cipressa en moins de 9 minutes, ils l'ont fait. Ensuite, Van Der Poel et Filippo Ganna ont suivi. Même si Ganna avait un peu de mal, il a suivi au train.
Ah mince.
Et ensuite, dans le Poggio, la dernière difficulté du parcours, Pogacar a tenté tant bien que mal de distancer les deux autres costauds, comme on pourrait dire.
Ouais,
et du coup, ça s'est fini au sprint avec Mathieu Van Der Poel étincelant.
C'est Van Der Poel en même temps. C'est... Van Der Poel au sprint, ouais. Tu peux pas le choper. Hein.
Ah, voilà. Après, une grosse performance de Ganna, qui avait aussi réalisé un très bon Tirreno Adriatico il y a 2 semaines. Mm. Et Carré va suivre Pogacar en montagne. C'est assez exceptionnel de sa part. Et on n'a pas eu de grosses chutes dans les descentes assez techniques. Donc, on a...
Il y a aussi eu le Paris-Nice il n'y a pas longtemps.
Après, oui, au niveau du Paris-Nice, on a eu la victoire de Jorgensen de la Visma-Liseback. Donc, oui, une victoire attendue, même si on a été déçu quand même de l'abandon de Jonas Vingegaard suite à une chute et à la météo.
C'est la météo, quoi.
Voilà, la météo de Paris-Nice. Voilà. Voilà. Donc, on a aussi eu une belle victoire française de Lenny Martinez. Qui s'est imposé en haut d'un col, s'est imposé quand même devant les grands favoris comme Jorgensen.
C'est ça. Et du coup, si j'ai vu un autre truc concernant le cyclisme, oui. Le Tour de France 2027 partira de Cardiff.
Oui, Cardiff en Écosse.
Maintenant, on essaie de faire partir sur le France un peu partout. Pays-Bas, Carla, en Pays de Galles.
Personnellement, je trouve ça un peu dommage de faire partir France. Il pourrait faire quand même, là en ce moment, il faut que de le faire partir d'étranger, il pourrait le faire partir au moins
France.
Une fois de France.
Pourquoi le Tour de France, on le fait pas partir
C'est pour
France.
Que ça soit plus
médiatisé.
Mais bon, c'est déjà médiatisé en vrai, donc je comprends pas. Pour l'argent aussi.
L'argent surtout.
C'est ça, je pense.
Les villes la payent leur place.
Tu payes, ça coûte cher.
Pour avoir le départ du Tour de France, la ville la paye. C'est la plus grosse enveloppe.
Parce que je crois que toutes les villes payent, par contre,
Poitiers, juste dans la ville. Poitiers, ils ont payé pour le Tour de France femmes qui a passé cette année. Oui. Ouais, ils ont payé. Hein.
Et tu penses qu'il y aura encore un duel Vingegaard de Pogacar au Tour de France ou ça a changé un peu?
Il y aura, le duel Vingegaard Pogacar. Après, on peut aussi s'attendre à Remco Evenepoel, malgré sa chute à l'entraînement.
J'espère revoir Binyan Girmay.
Oui, Binyam Girmay, je pense qu'on pourra l'attendre au duel avec les sprinters.
Il avait été incroyable sur le Tour de France 2024.
Moi, je pense
c'est lui qui avait fait maillot vert.
Oui, c'est lui qui
était
maillot vert.
C'est ça.
Franchement, à voir.
Voilà, et après, pour cet après-midi, on aura la Vuelta à Catalunya qui commencera.
Ça commence.
Avec un grand favori, Primoz Roglic, qui fera ses débuts en compétition. Qui avait eu, par exemple, sur le Tour de France de l'année dernière, beaucoup de mal.
Vuelta, elle commence maintenant, elle commence avant le...
Non, c'est la Tour de Catalogne.
Ah oui, Catalogne, ok.
C'est un autre truc.
Et après, on aura aussi, au niveau des Français, Lenny Martinez, donc qui a gagné son étape sur Paris-Nice.
Martinez, lui, franchement, je l'aime beaucoup.
Franchement, c'est un bon coureur.
Ah oui.
Après, je suis un peu déçu qu'il ait changé d'équipe. Qu'il soit passé d'une équipe française à la Bahrain Victorious.
C'est ça. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand les petits jeunes performent, c'est les gros qui...
Et après, évidemment, c'est pas les Français qui sont au top du top en équipe. Hein.
ça, c'est vrai. Bon, après, on a quand même une... Enfin, si, il y a une très bonne équipe, mais c'est en femmes. FDJ Suez.
Avec le recrutement de Demi Vollering, qui a gagné le Strade dei Bianchi.
Voilà. Qui peut être une très grosse performance pour le Tour de France, sait.
Et Lenny Martinez, c'est la petite pépite, en vrai, maintenant, du cyclisme français.
Lenny Martinez et Romain Grégoire, ça va être les deux nouveaux punchers.
Moi, je me rappelle de Romain Grégoire. Tu vois, Lenny Martinez, ça me dit vraiment rien.
Ouais.
Moi, c'est l'inverse. Grégoire, je sais pas du tout.
Mais parce que je crois que j'avais vu une étape du Tour de France et il avait vachement
regardé aussi. C'était un contre-la-montre. J'avais beaucoup aimé aussi Kevin Vauclin.
Ah, Kevin Vauclin, contre-la-montre.
Sur le contre-la-montre.
Ah ouais.
Oui, ouais, c'est un sacré gazier aussi.
Lui aussi, il me dit quelque chose. Martinez, je vous jure.
Si, il avait fait une performance à la Vuelta, Lenny Martinez, l'année dernière, je crois. Il n'avait pas eu le maillot rouge au début de
la
Vuelta, je crois.
Non, c'est pas la Vuelta, c'était un autre truc.
Qui avait eu le maillot rouge. Mais il avait gagné, je crois, une étape sur la Vuelta, Lenny
Martinez. Ouais, c'est ça, voilà.
Sa première étape.
Après, pour venir sur Romain Grégoire, sur Milan Sanremo, il a fait quand même une très grosse performance. De suivre Pogacar et les autres sur la Cipressa, ce qui est énorme. C'était le seul à les suivre.
C'est ça.
Après, c'est dommage parce qu'il a craqué. Mais
déjà, c'est déjà très bien quand même, franchement. Ouais.
Pour un jeune, je crois qu'il a 23 ans. Donc,
Il a encore de belles années devant lui.
Oui, voilà.
Merci beaucoup, Théophile, d'être venu. Franchement, c'était cool de parler de cyclisme avec toi. Et on passe tout de suite au volet. Bon bah ça y est, c'est la fin de la saison régulière en volleyball. Dernière journée, ça s'est passé samedi dernier. Et avec notamment, j'ai envie de dire, ouais, il y avait quand même des grosses surprises. Donc on commence avec Tourcoing, bon ça c'était pas la grosse surprise. Tourcoing qui a gagné Narbonne 3-1. Poitiers qui a gagné 3-1 contre Saint-Nazaire à l'extérieur, donc ça c'est déjà super bien. Paris a gagné 3-1 contre Toulouse. Tours a gagné 3-0 contre Nice. Chaumont a gagné 3-0 contre 7. Et la grosse surprise du week-end pour moi, c'est le Plessis-Robinson qui a gagné 3-0 contre Cannes. Donc franchement, c'était une très très belle performance des Cannois. Les playoffs, donc ça commencera à partir du 4 avril. Et il faut savoir que c'est 3 matchs pour 3 victoires pour aller en demi-finale. Donc voilà.
Trois matchs, c'est pas c'est différent à chaque fois. C'est non. Des adversaires différents.
Non. En gros, t'as maximum 5 matchs. T'as 2 matchs qui vont se dérouler. Les 2 premiers matchs vont se dérouler chez l'équipe la mieux classée. Ensuite, les 2 suivants seront chez l'équipe la moins classée. Et s'il y a un 5e match, ce sera contre l'équipe, ce sera sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Par exemple, en gros, je prends l'exemple de Poitiers parce que je l'ai devant les yeux. Les 2 premiers matchs seront à Tourcoing. Ensuite, on aura un match à Poitiers. Et si imaginons il y a 2-1, voilà. Ce sera un autre match à Poitiers et ensuite un autre match à Tourcoing.
Ça fait des matchs, ça, c'est énorme.
C'est les playoffs. C'est les playoffs.
Et du coup, c'est aller-retour, là. C'est aller, retour. Et voilà. Y a encore match nul, c'est encore un match.
C'est pareil jusqu'à la finale. La finale, c'est ça aussi.
Et ben.
Donc voilà. Alors, les playoffs opposeront Montpellier à Cannes, Tours à Nice, Tourcoing à Poitiers et enfin Chaumont à Toulouse.
Okay. Donc,
voilà.
Tu penses Poitiers va se qualifier contre Tourcoing?
Je pense. Ouais, moi j'y pense parce que c'est mon cœur de supporter qui dit ça, mais ça va être très compliqué parce qu'on a une très bonne, c'est une très très bonne équipe Tourcoing. On a recruté un joueur Poitiers, c'est le meilleur marqueur de la ligue qui vient de Paris et qui a fait un super match contre Saint-Nazaire, qui a mis 22 points quand même pour un premier match avec Poitiers.
Remplacer une gapette.
C'est un peu, oui, c'est ça, c'est un peu le remplaçant d'Engapet, ouais, franchement. Okay. Et moi, il m'a impressionné, franchement, il est superbe. Est-ce que contre Tourcoing, ça suffira? Seul l'avenir nous le dira.
Ok. Au moins, s'il perd le premier match, il n'y a pas inquiétude.
Non.
Voilà.
Non, parce que c'est déjà arrivé des fois où, tu sais, il y a 2-1, et au final, l'équipe gagne 3-2, tu vois, ça arrive.
C'est possible.
Ah oui, c'est très possible. Donc voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée.
Salut.
Salut.
C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM.
Des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça.
Écoutez, c'est bon parce qu'on est des yeux pour le prendre pour des andouilles. On accorde notre tête.